Les gosses qui prennent des baffes sans trop savoir pourquoi sont traités de manière injuste et deviennent de terribles garnements. Ce n'est pas ainsi qu'on éduque un enfant. Quand nous devions discipliner l'une des nôtres parce qu'elle avait désobéi ou menti, nous lui expliquions ce qu'elle avait fait de mal et pourquoi nous étions obligés de la punir. Eh bien, Dieu agit de la même façon avec les deux royaumes israélites qui ensemble constituent le peuple qu'il s'est choisi. Cependant, le livre d'Amos se préoccupe essentiellement du royaume des 10 tribus. Au début du livre, le prophète a prononcé une condamnation sur divers peuples païens, puis sur Juda et enfin sur Israël Nord. Ensuite, il a prononcé 4 discours dans lesquels il s'est spécifiquement adressé au royaume des 10 tribus du Nord en les menaçant de divers jugements graves et surtout de la destruction de la nation et de l'exil de ses habitants. Nous arrivons maintenant à son 5e discours, où il fait à nouveau état de la culpabilité des Israélites, surtout ceux du Nord, et où il annonce le châtiment qu'ils méritent. Je commence à lire le chapitre 6 du livre d'Amos. « Malheur à vous qui vivez bien tranquille dans Sion, et vous qui vous croyez bien en sécurité sur les montagnes de Samarie. Oui, vous les grands de la première des nations, vous tous vers qui accourt la communauté d'Israël. » Verset 1. Précédemment, le prophète s'est élevé contre ceux qui se méprenaient complètement en s'imaginant que le jour de l'Éternel apporterait la délivrance définitive de leurs ennemis, ainsi que le royaume de Dieu sur terre, où ils occuperaient la première place parmi les nations. Ici, Amos s'en prend à ceux qui sont endormis sur leur laurier, qui baignent dans une fausse sécurité, croyant que demain sera comme aujourd'hui, un jour de tranquillité, d'abondance et de plaisir. Il est vrai que Samarie, la capitale du royaume du Nord, était agréablement bien située et très bien protégée par des fortifications et les montagnes qui l'entouraient. En fait, elle était même considérée comme imprenable, un peu comme le Titanic était un submersible. C'est vrai qu'il a fallu 3 ans aux Assyriens pour en venir à bout, mais ils y sont arrivés. De plus, pour les Israélites des classes supérieures, c'était vraiment la belle époque. Ils profitaient d'une prospérité sans précédent, mieux encore que ce qu'ont connu la plupart des pays développés avec ce qu'on a surnommé les 30 glorieuses et qui ont commencé tout de suite après la fin de la dernière guerre mondiale. Amos commence par s'adresser aux deux royaumes israélites, comme le témoigne le mot « Sion », qui, à l'origine, était seulement le nom d'une colline, mais qui devint synonyme de Jérusalem parce que la ville sainte est bâtie dessus. Le prophète mentionne Juda parce que sous le règne du roi Ozias, le royaume du Sud connaissait également une période de paix et d'expansion économique. Mais comme les Israélites se rendaient coupables des mêmes fautes que leurs frères du Nord, ils commençaient aussi à provoquer la colère de l'Éternel. Toutefois, la suite montre que c'est essentiellement Israël Nord qui est dans le collimateur du prophète Amos. La brillante classe dirigeante du royaume des 10 tribus du Nord, le roi Jéroboam II en tête, n'était pas peu fière du prestige dont elle jouissait. Les grands se considéraient comme les notables de la plus importante des nations à cause de sa prospérité et du fait qu'elle avait le privilège unique d'être le peuple de Dieu. La fierté des chefs était encore rehaussée d'un cran du fait que le peuple avait beaucoup de respect pour leurs dirigeants malgré leurs travers et s'adressait à eux pour chercher conseil et arbitrer leurs différends. De là à se croire les maîtres du monde, il n'y avait qu'un pas qui était vite franchi, mais la chute n'en sera que plus rude. Je continue le texte. Rendez-vous à Calné pour voir ce qui s'y est passé, puis de là rendez-vous à Hamath, la grande cité, puis descendez à Gath, la ville philistine. Constatez si ces villes sont en meilleur état que ces royaumes-ci, ou si leur territoire est plus grand que le vôtre. Verset 2. Ces royaumes-ci décrivent les deux nations israélites, nord et sud, fortes et prospères. Mais ce sont les chefs d'Israël nord qu'Amos invite à un cours d'histoire-géographie. Il veut qu'ils considèrent ce qui était arrivé à trois capitales, jadis puissantes, mais qui avaient perdu leur éclat d'autrefois. À l'origine, Calné et Hamath étaient des villes-états, mais elles furent conquises par les Assyriens environ un siècle plus tôt. Calné était une ville au nord de la Syrie et au bord du fleuve Tigre. Hamath est une autre ville de Syrie située à 200 km au nord de Damas sur le fleuve Oronte. Elle avait été récemment conquise par Jéroboam II. À l'époque de David, Gath était la capitale des Philistins, mais elle avait été dévastée par les Syriens puis par Ozias, roi de Juda. Précédemment, au début du livre, Amos a mentionné quatre des cinq grandes villes fortes des Philistins, mais il a volontairement omis Gath, qu'il cite ici, justement parce qu'elle est en plein déclin. La classe dirigeante d'Israël Nord devait étudier de près ce qui est arrivé à ces puissantes capitales et en tirer les conclusions qui s'imposent. Au moment où Amos prophétise, comparées aux royaumes israélites, ces villes sont ridiculement petites et bien moins prospères. Dieu leur a rabaissé le caquet d'une façon magistrale et il va faire de même avec Israël Nord. Je continue le texte. « Car le jour du malheur, vous pensez l'éloigner, mais vous hâtez un règne de violence. » Verset 3. Dans leur arrogance, les chefs d'Israël Nord s'imaginent ne pas être concernés par un désastre semblable à celui qui a frappé les villes que le prophète a mentionnées. Mais ils se bercent de douces illusions, car leurs mauvaises actions, et en particulier l'oppression des pauvres, qui semble être leur spécialité, hâte l'arrivée du malheur qui fondra sur eux. L'expression « un règne de violence » décrit bien les dernières années d'Israël Nord. Non seulement les chefs et les riches opprimaient les plus faibles, mais en un peu plus de 20 ans, jusqu'à l'invasion assyrienne, parmi les 6 derniers rois d'Israël Nord, 4 finissent assassinés. C'est l'anarchie politique et morale. Si, sous le règne de Jéroboam II, tout allait plutôt bien pour le royaume, dès que son fils Zacharie lui succède, la situation change rapidement. Son règne ne dure que 6 mois, et avec lui disparaît la dynastie de Jéhu, qui s'était distinguée par l'énergie et la réussite militaire de ses rois. Zacharie est à son tour assassiné par un certain Shalloum, qui devient le 16e roi du royaume des 10 tribus, mais il n'y a qu'un mois pour chauffer le trône. En effet, Menahem, un des gouverneurs militaires, apprenant que Zacharie a été assassiné, se rend à Samarie, la capitale du royaume, fait la peau à Shalloum et, tant qu'à faire, prend sa place. C'est un très mauvais roi qui commet des atrocités, pratique le culte des veaux d'or et devient tributaire de l'Assyrie. Il est succédé par son fils, Pekahia, qui règne 2 ans avant d'être assassiné par Peka, l'un des chefs de son armée, qui prend sa place et devient roi d'Israël Nord. Peka s'allie alors avec la Syrie afin de résister aux Assyriens. Ensemble, ils se mettent en campagne contre le royaume de Juda afin de l'obliger à entrer dans leur coalition. Mais Akaz, roi de Juda, appelle à l'aide les Assyriens qui ne sont que trop heureux d'intervenir. Peka doit alors rentrer chez lui où il meurt assassiné par un certain Osée qui est à la solde des Assyriens et devient le nouveau roi d'Israël Nord. Mais Osée veut secouer ce joug et conclut une alliance avec l'Égypte. Croyant en leur soutien, il refuse de payer le tribut annuel, ce qui fait que le roi assyrien envahit Israël, emprisonne le roi Osée et assiège Samarie, qui tombe au bout de 3 ans de siège. Je continue le texte. Vous voilà allongé sur des lits incrustés d'ivoire. Vous vous vautrez sur des divans moelleux. Vous mangez des béliers choisis dans le troupeau, des veaux de premier choix pris dans l'étable. Verset 4. Normalement, on mangeait des veaux mis à l'engrin pour les fêtes religieuses, mais à Samarie, c'était au menu du jour des grands du royaume à chaque repas. Ils avaient adopté une coutume à la mode chez les notables des pays étrangers. L'hédonisme décadent et la vie voluptueuse, des partous où l'on mangeait allongé sur des divans en se faisant servir par des femmes esclaves plantureuses, pas besoin de faire un dessin. Je continue. Vous qui improvisez au son du luth, qui composez comme David, vous buvez votre vin à pleine coupe et vous oignez vos têtes de parfums raffinés, mais la destruction qui menace tout le royaume de Joseph ne vous affecte pas. Versets 5 et 6. Alors que David avait inventé des instruments à cordes et différentes formes de musique pour honorer l'Éternel lors du culte, ses chefs débauchés ont imaginé de nouveaux chants, des paillards, je présume, pour accompagner leurs orgies. Et au lieu de boire du vin au verre, ils utilisaient des calices. Mais le problème n'est pas seulement dans la quantité d'alcool consommée. En effet, le mot pour calice désigne habituellement le récipient qui était utilisé pour les libations et pour récolter le sang des sacrifices. C'est donc un sacrilège que de s'en servir pour boire du vin. De plus, et à la façon orientale, ces notables se font oindre de parfums raffinés, ce qu'il y a de meilleur. Mais là encore, le plus grave est que le mot « parfum » décrit la fragrance qui était fabriquée et destinée exclusivement pour le service du culte. Or, ils l'emploient sur leur propre personne, ce qui est un sacrilège supplémentaire. Finalement, préoccupés par leur recherche frénétique du plaisir, les grands du royaume ne se soucient pas le moins du monde de ce qui pourrait arriver à la nation. Leur motto est quelque chose comme « Après moi, le déluge ». Les accusations du prophète Amos sont très graves. Je continue le texte. « C'est pourquoi vous irez en tête des déportés, et s'en sera fini des clameurs, des fêtards vautrés sur leurs divans. » Verset 7. « À tout seigneur, tout honneur, les chefs du peuple seront en tête de la colonne de prisonniers qui prendra la direction de la Syrie, et c'est ainsi que leur clameur, le tintamarre de leur festivité, prendra fin. » Je continue. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. C'est là ce que déclare l'Éternel, Dieu des armées célestes. « J'ai en horreur ce qui fait l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et ce qu'elle contient. » Verset 8. En jurant par lui-même, Dieu fait savoir à son peuple que la décision de le juger vient de lui et qu'elle est immuable. Il a en horreur le style de vie des riches et de la classe dirigeante. Leur somptueux palais, leurs beaux jardins, leurs vêtements tape à l'œil et leur goût du luxe en général, parce que ce sont des biens mal acquis. Je continue. Si dans une maison il survivait 10 hommes, eh bien, ils périront. Verset 9. Tous ceux qui se sont rendus coupables d'exactions et qui habitent à Samarie, capitale du royaume des 10 tribus, seront châtiés par l'Éternel. Et même si certains venaient à échapper à l'épée et à l'exil en se cachant, par exemple, ils périront quand même de la peste ou d'un autre fléau provoqué par Dieu. Je continue. Quand le proche parent d'un défunt emportera de la maison le mort pour le brûler, il demandera à celui qui se trouve au fond du logis, « Quelqu'un d'autre est-il encore avec toi ?» Celui-ci répondra, « Il n'y a plus personne, et l'on dira, « Silence, car il n'y a pas lieu d'invoquer l'Éternel. » Verset 10. Le prophète illustre la calamité qui va frapper Samarie en donnant un exemple de ce qui va se passer. Il met en scène 2 personnes. le proche parent d'un défunt se rend dans la maison de ce dernier pour accomplir les rites funéraires qui précèdent l'ensevelissement. Mais ici, il est impossible de l'enterrer pour plusieurs raisons. Les morts, dus au siège de la ville et à la peste, sont trop nombreux et leur putréfaction risque de provoquer une épidémie supplémentaire qu'il faut enrayer en brûlant les corps. Et de toute façon, il est impossible d'aller au cimetière parce qu'il se trouve hors de la ville qui est encerclée par les troupes assyriennes. De cette maisonnée, il ne reste plus qu'une seule personne vivante. Toutes les autres sont mortes. Sachant cela, le proche parent dit au dernier survivant que même dans sa détresse, il ne doit pas invoquer le nom du Seigneur parce que les Israélites ayant rompu le traité d'alliance, l'Éternel, le suzerain, se venge en punissant son vassal. Alors, faire appel à lui dans de telles circonstances ne ferait que lui rappeler tout le mal que son peuple a fait et attiserait encore davantage sa fureur. Dieu est miséricordieux et lent à se mettre en colère. Mais si l'homme persiste dans sa rébellion contre lui, quand la patience du Seigneur arrive à son terme et que le châtiment tombe, il est souvent très dur et impitoyable, ce qui apparaît fréquemment dans l'Ancien Testament et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. D'une manière générale, les Israélites enterraient leurs morts en accord avec le jugement que le Créateur a prononcé sur l'homme. Je le rappelle. Oui, tu tireras ton pain du sol à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela dit, parfois, on brûlait le corps de certaines personnes exécutées pour signifier leur rejet par Dieu. Dans le cas de Saül, premier roi d'Israël, sa dépouille fut brûlée parce qu'elle avait été mutilée par ses ennemis. Mais cette incinération avait pour but de l'honorer en effaçant les dégradations que son corps avait reçues. Je continue le texte. L'Éternel va donner des ordres. Les grandes maisons, il les frappera, et elles tomberont en ruine. Puis les petites, elles se lézarderont. Verset 11. Le châtiment sera complet. Après avoir tué ou déporté presque tous les habitants du royaume des 10 tribus, l'Éternel fera en sorte que les Assyriens et un tremblement de terre détruisent les palais magnifiques ainsi que les humbles chaumières. Je continue. Avez-vous déjà entendu qu'on fasse galoper les chevaux sur le roc ou qu'on y laboure avec des bœufs? Mais vous, vous transformez le bon droit en poison, le fruit de la justice en ciguë. Verset 12. Cette mini-parabole décrit la stupidité de la classe dirigeante d'Israël Nord qui a renversé l'ordre moral établi par Dieu. Au lieu de faire droit aux innocents, ils les ont abreuvés d'amertume en pervertissant la justice. Je continue. Vous vous réjouissez d'avoir pris l'eau des barres et vous vous glorifiez en disant « N'est-ce pas grâce à notre puissance que nous avons pris Karnaïm ?» Verset 13. Ces deux villes sont situées à l'est du Jourdain et faisaient partie du territoire israélite que Jéroboam avait repris aux Syriens. Karnaïm veut dire les deux cornes, ce qui dans les Écritures symbolise la puissance, parce que le bœuf était l'animal le plus fort de la ferme. Quant à la première ville citée, Lodébar, son vrai nom est Lodabar. Amos écorche volontairement sa prononciation afin d'en modifier le sens. En changeant une voyelle, le nom de la ville devient Néant. Par sarcasme, le prophète joue sur les mots. Les Israélites se réjouissent pour rien. Ils se vantent d'avoir vaincu leurs ennemis par leur propre force, alors qu'en réalité, toutes les victoires militaires d'Israël Nord étaient dues à l'intervention de l'Éternel en leur faveur. Je lis un passage. « C'est Jéroboam II qui, reconquis tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis Lebo Hamath jusqu'à la mer Morte. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas. Car l'Éternel avait vu l'extrême misère dans laquelle Israël était tombé. Il n'y avait plus chez eux ni esclaves ni hommes libres, personne pour venir à son secours. Or l'Éternel n'avait pas dit qu'il ferait disparaître le nom d'Israël de dessous le ciel, et il sauva le pays par Jéroboam, fils de Joas. Je finis maintenant le chapitre 6 d'Amos. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes. « Ô communauté d'Israël, je susciterai contre vous une nation qui vous opprimera depuis Lebo Hamath et jusqu'au torrent d'Araba. » Verset 14. Le torrent d'Araba est une dépression au sud de la mer Morte dans laquelle coulent les eaux du Jourdain. Ce torrent va se jeter dans le golfe d'Aqaba qui se trouve sur la mer Rouge. C'était la frontière méridionale du pays de Moab qui était alors vassal de Jéroboam II. Lebo Hamath à l'extrême nord et le torrent d'Araba à l'extrême sud constituaient les limites du territoire que Jéroboam II venait tout juste de reconquérir. L'Éternel va donc commanditer une nation qui opprimera cruellement les Israélites et anéantira les accomplissements sur lesquels ils fondaient leur puissance et leur sécurité et desquels ils tiraient leur gloire. L'homme est vraiment stupide. Comme il refuse l'invitation douce d'obéir à son Créateur, il doit apprendre à courber les chines par la méthode forte.